Bonjour Caroline Brouet et bonjour à toutes et à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
En 1981, Edith Cresson est la première femme ministre de l'Agriculture en France. Lors d'une manifestation, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, l'accueille par une banderole où on peut lire « Edith, on espère que t'es meilleure au lit ». 10 ans plus tard, Edith Cresson est nommée Premier ministre. C'est aussi la première femme à ce poste. À l'Assemblée nationale, un premier député rappelle les inroques qui consacrent un article aux remarques les plus sexistes en politique. Un député commence par lancer « On nous envoie la Pompadour ». Un peu plus tard, un autre se demande si elle a, je cite, « une culotte en dessous ». Edith Cresson, durant son court séjour à Matignon, est la cible de toutes sortes de remarques sexistes qui commencent par la rumeur persistante de sa liaison avec le président de la République. Elle aura aussi droit à un article du quotidien de Paris intitulé « U cocotte ». Et dans un programme télévisé à grande écoute, une marionnette qui la représente se fait sans arrêt remettre en place par la marionnette du président qui commente entre autres, je cite, « Je m'ennuie, alors la greluche, je la viole ». 20 ans plus tard, la misogynie passe encore pour de l'humour sur les bancs de l'Assemblée nationale. En octobre 2013, le député UMP Philippe Le Ray imite le caquettement d'une poule lorsque la députée écologiste Véronique Massonneau prend la parole. Mais ce qui a changé, c'est que par solidarité, les députés de la majorité boycottent quelques minutes la séance de l'Assemblée. Si les comportements sexistes n'ont pas vraiment disparu, ils sont au moins devenus contestables publiquement. Les auteurs de petites phrases misogynes sont outés sur les réseaux sociaux. On ne dit plus n'importe quoi, on se contente de le penser. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, 3 femmes de pouvoir racontent leurs difficultés à l'exercer. C'est jusqu'à 14h sur France Culture et c'est un reportage d'Ilana Navarro.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai fait mon stage à la préfecture de police à Paris et lorsque l'on allait dans les différents bureaux de la préfecture de police, les bureaux administratifs, etc., la formation, le recrutement, partout il y avait des affiches, on voyait la police, un métier d'homme. Et alors il y avait ces très belles affiches en couleur avec un policier avec sa moto, un policier avec son chien, un policier avec ses collègues et la voiture en action, un policier, vous voyez, avec une arme. Enfin bon, bref, c'est toujours la police, un métier d'homme, on ne voyait jamais une femme. Enfin, je veux dire, bon, nous, on a pris ça avec humour. Hein, donc, mais enfin, on leur disait, peut-être qu'un jour, il faudra changer les affiches aussi, mais voilà. Ça a été fait, mais beaucoup plus tard quand même. Hein, il a fallu déjà quand même pas mal de femmes au moment où ils ont envisagé de nous faire apparaître.
Merci. Ils sont très bons. D'accord.
Merci. Il y avait une vraie psychose dans Paris parce qu'il y avait un étrangleur qui sévissait, qui a tué des femmes. Et plus aucune femme n'osait descendre dans un parking, surtout dans le 10e arrondissement. Donc, moi, je sais que je n'aime pas descendre dans les parkings, vous voyez, même encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, la nuit, j'entends. Hein, bon, le jour, il y a du monde, va et vient, etc. Sinon, c'est pas. Voilà. Mais beaucoup de femmes sont comme ça. Et il s'est installé à Paris une psychose hors du commun, c'est-à-dire que les journaux titraient à gros titres le tueur du 10e arrondissement a encore sévi, etc. Il sévissait dans les parkings. À l'époque, le préfet de police, le directeur ont décidé de faire quelques opérations souterraines, c'est-à-dire de nuit dans des parkings, d'essayer de surveiller. De surveiller et éventuellement, s'il y avait une femme, qu'une femme puisse s'infiltrer comme ça dans le parking, voir si, on ne sait jamais, elle pouvait être abordée, auquel cas les policiers qui étaient autour de nous seraient évidemment immédiatement intervenus. Donc moi j'ai fait mon stage à la préfecture de police à Paris, ce qui fait qu'on est un certain nombre à être entrer seul dans les parkings. Alors à l'époque, c'était pas très rassurant parce que aujourd'hui, on a des moyens techniques de liaison qui sont quand même très fiables et beaucoup plus sophistiqués. À l'époque, on avait des postes genre talkie-walkie, mais supérieurs quand même. Mais je veux dire qu'ils crachouillaient de l'un à l'autre. Enfin, je veux dire, c'était pas toujours la liaison facile. Ce qui fait que le téléphone portable n'existait pas. Enfin bon, donc moi, je suis descendue sans rien, quoi. Juste ma voix, j'aurais crié si quelqu'un m'avait abordé, quoi. J'imaginais la fille seule comme ça qui rentre le soir après le théâtre ou le cinéma, qui gare sa voiture et puis qui se fait aborder par un type qui commence par la menacer d'un objet contondant. Voilà. J'étais pas terrorisée, non, j'étais pas terrorisée parce que je savais qu'ils étaient là quand même. Moi, j'étais de toute façon une inconditionnelle de la police judiciaire parce que mon père déjà avait œuvré en police judiciaire et j'avais remarqué quand même que c'était un métier de passion, quoi. Enfin, c'est, disons qu'on est acteur de l'enquête. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'à la fois très dur, très difficile, qui demande beaucoup de disponibilité, mais qui en même temps est effectivement très passionnant. Ben là, il ne s'est rien passé, on n'a pas rencontré ce monsieur. Son arrestation s'est faite par le déroulé de l'enquête, c'est-à-dire il y a une femme qui a été également trouvée dans un incendie et qui était une femme yougoslave. Et en fait, c'est par le relationnel de cette femme qu'on est tombé sur ce garçon qui donc la fréquentait, mais la fréquentait au point que finalement il l'a assassinée. Et on s'est donc intéressé à cet homme parce que quand on a regardé son cursus, il était en prison en Yougoslavie pour des affaires déjà à caractère sexuel. Donc cet homme est devenu très intéressant et on a fini par l'arrêter. Ce garçon était très dur, enfin il s'est assez mal comporté vis-à-vis des enquêteurs. Donc les enquêteurs se sont un petit peu fâchés avec lui, vous voyez, c'est le ton a monté. Ils ont essayé de l'impressionner, de le faire avouer, quoi, voilà. Et bon, il n'y avait rien à en tirer, hein, il s'est bloqué avec eux. Cette façon de s'y prendre d'une façon un peu brusque l'a fait se renfermer totalement. Hein, il s'est refermé comme une huître. Ce qui fait que les enquêteurs sont partis déjeuner et moi je suis restée avec un collaborateur du service, un inspecteur principal qui était un garçon qui avait beaucoup travaillé avec moi. Comme moi j'étais stagiaire, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit légitimement dans cette affaire. Et je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait peut-être le prendre et puis essayer de discuter avec lui pendant que les autres vont déjeuner. Et elle m'a dit, bah oui, on peut toujours essayer. Donc on l'a fait sortir de garde à vue. Et puis j'ai décidé de lui proposer un sandwich, quelque chose à boire, etc. Et puis il était toujours absolument fermé, bloqué. Il ne regardait qu'en bas, il regardait que ses chaussures, quoi. Voilà, très très fermé. Alors bon, j'ai discuté avec lui, ça marchait pas trop. Et puis à un moment donné, j'ai pris sa fouille, c'est-à-dire on rassemble ses affaires. Il y avait son portefeuille, j'ai regardé dans son portefeuille, j'ai trouvé la photo d'un petit garçon qui devait avoir à peu près 2 ans. Alors je lui ai demandé si c'était son fils et là seulement il a levé le regard et il a regardé la photo et là, ça y est, j'ai un peu déchiré le voile si vous voulez. Hein. Donc il a dit oui c'est mon fils, il a commencé, ben, j'ai dit il est mignon et tout. Et là je lui ai dit une phrase, je lui ai dit si tu ne parles pas de toute façon, tu sais que tu le reverras, il aura 25 ans ou 30 ans. Donc, alors que si tu parles et si tu expliques ce qui s'est passé, peut-être qu'on peut trouver des circonstances atténuantes. Enfin, voilà, j'ai essayé de le voir. Alors, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais je sentais qu'il réfléchissait. En tout cas, qu'il y a un contact qui se faisait, il s'est réfléchi. Et puis, tout d'un coup, au bout de pas mal de discussions, où j'ai même parlé des victimes, du comportement des victimes, qui j'en avais honte parce que j'essayais de suggérer que les victimes avaient été un peu aguichantes, voyez, alors que les pauvres, c'était pas du tout le cas. J'essayais de trouver tous les biais possibles. Bon, c'est un travail de ruse, hein, c'est l'un contre l'autre, hein. Il faut essayer de toute façon, à l'époque, l'aveu était très important parce que nous n'avions pas de preuves scientifiques. Dans cette affaire, nous n'avions pas beaucoup de preuves, hein. On avait une fourchette parce qu'il avait menacé avec une fourchette. Comme si c'était un couteau, il leur mettait dans la gorge. Et on l'a retrouvé, une fourchette, seulement une fourchette ordinaire comme ça. N'importe quel avocat dirait, ben oui, et alors, cette fourchette ne veut rien dire. c'est une fourchette comme une autre, n'importe qui en a chez soi. Enfin bon. Donc non, on n'avait pas de preuves tangibles. Il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas tout ça. Donc, si vous voulez, les aveux étaient importants. Donc l'idée, c'était d'arriver à le faire parler. C'était compliqué. Et tout d'un coup, voilà, il s'est déclenché. Et là, contre toute attente, quand il s'est déclenché, il est allé même faire des révélations d'ordre sexuel, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il m'a tout raconté, dans le détail, si vous voulez.
Alors,
mais tout, bon, la façon comme il l'a fait, le plaisir qu'il a pu prendre, qui était un plaisir morbide. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il n'a pas pris plaisir à jouir, il a pris plaisir à étrangler. Vous voyez ? Leur jouissance à eux, elle est celle-ci, elle n'est pas... d'ordre sexuel comme pour un homme normal. Donc ça c'est effrayant, mais n'empêche qu'il l'a raconté en détail. Et donc l'inspecteur qui était là, l'inspecteur principal à mes côtés, dans un silence religieux, essayait de taper le moins fort possible sur la machine à l'écrire Olympia de l'époque pour ne pas troubler cette espèce de entre guillemets intimité qui s'était installée entre nous. Entre-temps, les enquêteurs sont rentrés de déjeuner, le chef de service a passé la tête. L'inspecteur principal lui a fait signe c'est bon. Hop, il a vite refermé la porte parce qu'il faut savoir qu'il y avait une meute de journalistes autour du service. Ils étaient là tous les jours parce que surtout qu'ils savaient qu'un type avait été arrêté. Alors ils se demandaient si c'était le bon, etc. Enfin, pour le moment, ils n'avaient pas d'informations. Donc on a obtenu les aveux qu'il a signés, circonstanciés, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était mes premiers aveux. C'était génial. J'ai vu ma photo à la une de François en sortant du métro, parce qu'on vendait encore le François à la criée, vous savez, à la sortie du métro, et j'ai vu ma tête à côté de celle à côté de l'étrangleur, quoi, voilà. Et la juxtaposition des deux photos était très, très impressionnante. Et donc j'étais complètement terrorisée à la sortie du métro, j'avais l'impression que tout le monde me reconnaissait, ce qui n'était pas le cas, bien sûr. Mais vous voyez, je me dis, mon Dieu, je suis à la une, je me suis pas rendu compte de... J'étais impressionnée par la déferlante médiatique, quoi. Ça a été ma première expérience. Martine Monteil, je suis actuellement donc en retraite. J'ai été donc au départ de toute ma carrière un commissaire de police qui a évolué donc dans les différents grades pour terminer directeur régional de la police judiciaire au Quai des Orfèvres, puis enfin directeur central de la police judiciaire, donc au niveau national. Moi, j'ai eu beaucoup de courriers, de manifestations de femmes qui ont dit que nous, les pionnières, étaient un exemple, un peu un moteur, si vous voulez, un pour elles. Moi, je le crois volontiers, quoi.
Je n'étais pas du tout féministe. J'ai été élevée comme un garçon, par un père très attentif, parce que sa fille et son fils aient exactement la même éducation, qu'ils emmenaient tous les deux au karaté, qui les a entraînés tous les deux en leur tapant dessus de la même manière. Donc non, je n'étais pas du tout féministe. Et puis pour moi, c'était vraiment un sujet de femme hystérique. Quoi. Il y a un événement qui m'avait particulièrement marqué, évidemment, et surtout marqué ma famille d'ailleurs, c'est quand j'avais été suspectée d'être la maîtresse de Nicolas Sarkozy, de l'ancien président de la République. À l'époque, donc, j'ai été secrétaire d'État à l'écologie. Et puis on était partis en déplacement outre-mer. On avait fait une série de déplacements. Alors il y avait avec Nicolas Sarkozy, puisque je m'occupais alors de la partie lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, puisque ça a des conséquences absolument catastrophiques sur la forêt, sur l'environnement en Guyane. Et puis après, on avait dû aller, je crois, en Martinique, où il y avait la question d'un plan séisme. Et puis alors là, il y avait une série de questions qui m'avaient beaucoup étonnée sur « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Bah oui, qu'est-ce que je fais là? Je suis là parce qu'effectivement, il y a des questions environnementales qui se posent et qu'on aborde ces sujets dans le dépassement présidentiel. Et puis, mon attachée de communication était aussi, elle, assez surprise des questions. Elle me dit, c'est bizarre quand même, il y a un truc bizarre qui se trame. Et peut-être une semaine après, enfin en tout cas très rapidement après, il y avait eu toute cette rumeur qui est sortie plutôt sur les réseaux sociaux et puis d'ailleurs à l'étranger. Ça avait été beaucoup relayé, notamment au Royaume-Uni. Ça avait fait la une du Poste, hein, au Royaume-Uni quand même, avec photo à l'appui.
C'était comment la première réaction?
Les premières questions sur qu'est-ce qu'elle fait là, je me suis dit, ça n'a aucune importance. Après, quand la rumeur part, non, on ne peut pas se dire que ce n'est pas grave. La première réaction, c'est de savoir d'où ça vient. Il y avait eu des tas de rumeurs sur la rumeur. La rumeur que, selon laquelle c'était forcément Rachida Dati qui avait propulsé cette rumeur, ou Pierre Charon, ou des rumeurs sur les rumeurs. Mais on ne sait jamais. Donc c'est plutôt dans un esprit de vengeance qu'on réagit au départ. On a étudié toutes les hypothèses possibles. Est-ce qu'on porte plainte pour diffamation? Et là, on vous explique, non, il n'y a pas de diffamation. Parce qu'on n'explique pas que vous avez obtenu tel ou tel poste parce que vous auriez été l'amante de quelqu'un. On dit simplement que vous l'avez été. Donc, ce n'est pas diffamation, c'est atteinte à la vie privée. Mais si vous commencez à porter plainte pour atteinte à la vie privée, dans la lecture médiatique, c'est que vous cautionnez. Et puis après, en termes médiatiques, vous faites vivre la rumeur. Vous lui donnez corps, vous l'amplifiez, vous la faites vivre pendant des et des années, le temps que les choses soient instruites. Donc la meilleure des réactions, alors il y a les proches, hein, la meilleure des réactions sur les proches, c'est de dire oh, « bah, ouais, t'as vu la rumeur », enfin voilà, de dire les choses. Et puis ensuite, c'est de la retourner, c'est de la tourner en dérision, telle qu'elle est. C'est une rumeur, c'est forcément de la dérision. Chantal Joanneau, sénatrice et vice-présidente de la région Île-de-France. C'est ce que j'ai choisi de faire, mais c'est vrai qu'après beaucoup d'interrogations, parce que la laisser comme ça vivre sans que jamais finalement l'auteur ou les auteurs ne soient recherchés ou punis, ou en tout cas exposés au public, ce serait bien un jour qu'ils expliquent pourquoi ils l'ont fait, quel était l'objectif, est-ce que c'était un contre-feu à la rumeur de Carla Bruni et Biolay, est-ce que c'était des gens qui voulaient m'affaiblir, ce qui voulaient ma place, est-ce que... Enfin, ça peut être beaucoup de choses, quoi. Je m'en suis moquée comme un des exemples les plus flagrants, justement, du sexisme en politique. Puisque, par définition, si nous sommes, nous, femmes, ici, en politique, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'on a couché avec quelqu'un. Eh bien, forcément, on n'est quand même pas suffisamment compétente pour exercer les mêmes fonctions qu'un homme. Ça se saurait. Donc, forcément, c'est que quelqu'un nous est redevable des services physiques que nous lui avons rendus. Après, j'aurais pu avoir des tas d'autres réactions. J'aurais pu dire, oh, écoutez, si j'avais voulu un amant, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Enfin, j'aurais pu tourner la dérision autrement. Mais je trouvais que l'angle, vous voyez, oui, je suis désolée, mais avec mon faible niveau intellectuel, forcément, j'ai couché avec quelqu'un.
Le fait d'assumer le côté féministe est venu après...
Le fait d'être devenue féministe est venu après ces différents événements, parce que vous êtes en plus très souvent tentée de laisser passer, de rentrer dans le rang, de vous couler dans le moule des grands codes masculins du pouvoir, qui ne sont pas propres à la politique, qui sont pareils partout. Pour exercer des responsabilités politiques et pour progresser, il faut être un peu cabossé quand même. Ça veut dire que dans notre pratique, on essaye d'en tirer les enseignements, qu'on ne laisse pas prise, qu'on ne laisse jamais passer. Moi, je ne laisse jamais passer. Quand j'étais secrétaire d'État, encore une fois, à l'Assemblée nationale, j'étais descendue et j'étais en jupe relativement courte. Et là, il y avait eu des sifflets derrière. Sur le moment, c'était encore une réponse aux questions d'actualité. Donc la réponse, vous avez 2 minutes pour répondre, vous devez tout de suite aller dans le sujet et autres. Par contre, c'est le fait de le dire et de le répéter, de dire, ah ben, vous voyez quand même ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors après, en plus, j'avais dit que c'était parce que j'étais en jupe. C'était vrai, ils ne m'auraient pas sifflé autrement, d'ailleurs. Et puis là, il y avait tout un groupe de femmes à l'Assemblée nationale, de droite, qui s'étaient senties obligées de dire « Ah non, vous savez, il n'y a aucun problème, on peut se mettre en jupe. » Et elles avaient même fait un pot, elles avaient organisé un pot pour expliquer que ce que je disais, c'était n'importe quoi et qu'on ne se faisait absolument pas siffler. « C'est une stratégie de protection de nier l'existence de ces difficultés. Protection au sein de son propre camp politique, hein, parce que quand on crée des problèmes, en général, on le paye toujours à un moment ou à un autre. Quand on dit des choses qui ne sont pas toujours agréables dans son propre camp, et les hommes ne veulent pas changer leur manière d'exercer la politique. Pas du tout. Voilà, c'est leur code. Ils sont baignés là-dedans par leurs parents et les parents de leurs parents depuis leur plus tendre enfance. Et donc c'est très compliqué de revenir sur quelque chose qui est même devenu quasi génétique. Des responsables politiques qui expliquaient que non, ça s'était dépassé, que je donnais une mauvaise image de la politique, que je donnais une mauvaise image du Parlement, que c'était entièrement faux. Donc quand on ne peut pas vous attaquer trop sur votre compétence, parce que j'étais plutôt experte dans mes dossiers, bah, vous êtes hystérique. C'est un vrai problème chez les femmes. On est hystérique. Des hystériques qui s'ignorent. Mais donc on vous attaque sur ce sujet. Bon, bah, la réaction suivante, c'est pas de se mettre en pantalon, c'est de remettre la même jupe, voire la plus courte, et de mettre des talons. Voilà. Ça m'enfonce plutôt dans l'inverse.
France Culture, les pieds sur terre.
Bien que dans une famille musulmane, mon père avait le souci de l'égalité entre les garçons et les filles, et jamais il nous a mis dans des situations où nous pouvions nous sentir inférieurs aux garçons. Voilà, jamais. Ça a toujours été quelqu'un de très ouvert, et au contraire, il a fait exploser chez nous le désir d'exister et d'être. Et je me souviens d'avoir été dans mon parti politique, qui est le Parti Socialiste, qui aurait dû être un parti à l'origine plus ouvert, hein, plus ouvert, voilà, oui, on va dire ça comme ça. Et des premières difficultés que j'ai eues dans mon propre parti, c'est-à-dire que dans la section politique dans laquelle j'évoluais en tant que militante, je me suis rendu compte que tant qu'il s'agissait de faire le travail, c'était très bien, mais dès qu'il fallait mettre une femme issue de la diversité en avant, ça prenait des proportions plus complexes, jusqu'au moment où on m'a carrément dit, avec un nom comme le tien, tu vas plomber la liste. Simplement pour rappel, c'était dans le 16e arrondissement de Paris, et je n'avais eu jusque-là aucune difficulté, par exemple, à m'imposer dans mon quartier, puisque j'ai été présidente ou dans une présidence tournante de la Fédération de parents d'élèves du lycée Janson de Sailly. J'ai jamais eu de difficulté là à m'imposer comme telle avec des amis pour gérer cette association ou pour être visible. Et là, tout d'un coup, mon nom devenait un handicap. Alors, est-ce le nom, est-ce la femme? Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Bariza Kiari, sénatrice de Paris, juge à la Cour de justice de la République, membre de la Commission des affaires internationales, de la défense et des forces armées. J'ai été éberluée, je vous assure que j'ai été éberluée, donc je ne pouvais pas être tenue dans la liste, parce que j'avais un nom différent, parce que ce genre de propos au café du commerce sont condamnables. Et dans un parti politique comme le mien, avoir la carte du parti, c'est comme si on avait un viatique de non-préjugés ou de non-racisme. Sur le coup, j'ai rien dit, j'ai encaissé. Ah oui. J'ai encaissé, oui.
Pourquoi ?
On encaisse. Ça fait mal. Ça fait très mal. On encaisse, et comme on sent qu'autour, on n'a pas des alliés, parce qu'il y a un partage du pouvoir, et qu'il y a d'autres personnes qui voulaient avoir cette place sur la liste. Donc je n'avais pas d'alliés. Sur cette insulte, je n'avais pas d'allié. Donc, ce n'était pas le moment de réagir. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai raconté ça à ma famille. D'abord, on s'en est étonné, parce que nous n'avions pas l'habitude de ce genre de choses. Et on m'a dit, c'est quand même curieux que ça soit dans ton parti politique qu'on te renvoie ton identité. Ça leur semblait énorme. Donc si dans ce parti politique de gauche, on te renvoie à ton identité, qu'est-ce que ça doit être ailleurs, dans des milieux moins éduqués? Et tout de suite, on a pensé aux banlieues, aux jeunes des banlieues, de ce qu'ils pouvaient vivre. Puisque moi, j'étais dans le 16e arrondissement de Paris, et dans un parti politique qui prônait la justice et l'égalité. Ça a été un coup dur pour ma famille. Et le lendemain matin, je prenais mon café, et il y avait dehors des ouvriers maghrébins qui étaient avec la pioche, là. Ça faisait du bruit. Et je suis sortie. Je leur ai proposé du café, comme on fait dans les pays arabes. Je leur ai proposé du café avec des gâteaux. Je les ai fait rentrer dans la cour de l'immeuble. Et c'était normal pour eux. Merci ma fille. Et en les regardant, ces visages ravagés par le travail, la fatigue, je me suis dit, si moi, l'insulte que j'ai eue hier, je ne réagis pas, mais comment ces pauvres gens vont pouvoir réagir pour leurs propres enfants? Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que, et c'est à ce moment-là, je vais vous dire, que la peur m'a quittée. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lutter et de lutter contre les discriminations et contre les préjugés. Et donc le jour même, j'ai déposé un mémoire à la commission des conflits du Parti Socialiste. Et j'ai gagné. J'ai retrouvé ma place sur la liste. Il y a eu une décision du Conseil national qui me redonnait ma place en deuxième de liste. J'ai trois garçons qui n'ont pas envie de faire de politique. Pas du tout. Pas du tout. Et qui me demandent tous les matins comment je fais dans ce milieu hostile. Mais c'est l'intérêt. Tout l'intérêt est là. Dans un milieu hostile, et puis naviguer dans ce milieu hostile et s'en sortir, c'est bien pour l'ego.
I was doing all right, nothing but rainbows in my sky. I was doing all right till you came by. Had no cause to complain.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Femmes et Pouvoir, un reportage d'Ilana Navarro réalisé par Véronique Villa. Merci à Martine Monteil, à Barisa Chiari et à Chantal Joanneau. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Clara Lacombe, c'est la stagiaire. Il n'y a que des filles, on s'en réjouit, enfin plus ou moins. Et je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de France Culture. Dans quelques instants, encore une autre femme épatante, c'est Marie Richeux et ses Nouvelles Vagues.
Tingling all through, I feel somehow. I was doing all right, but I'm doing better than ever now. Doing all right, but I'm doing better, better than ever.